Patricia Martin, votre invité à présent, Olivier Wieworka, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, à l'occasion donc de la mort hier de Daniel Cordier. Il avait 100 ans.
Oui, bonjour Olivier Wieworka.
Bonjour.
Daniel Cordier, alias Caracalla, vient donc de disparaître. Vous l'avez connu, alors quel souvenir en gardez-vous ?
Alors je l'ai connu comme beaucoup d'historiens, j'avais pas une relation privilégiée avec ouais. Daniel Cordier, mais il s'est trouvé que son livre publié en 1989 avait fait un peu de remous, qu'il y avait des colloques sur la résistance,
ouais.
Et Daniel Cordier est devenu un personnage un peu familier pour beaucoup d'historiens qui travaillaient sur la résistance. C'était ouais. quelqu'un qui était tout à fait délicieux, tout à fait
un homme chic.
Affable, un homme chic, voilà, donc qui pouvait aussi un peu détonner dans la... voilà, dans la tribu des universitaires, par son élégance, son raffinement et son niveau de vie.
Et alors, il y a une histoire dans laquelle vous êtes intervenu, c'est celle d'Henri Freinet, justement lorsque vous avez connu Daniel Cordier, mais ça, on y reviendra dans quelques minutes. Un parcours, c'est lui-même qui le dit, ça, parcours d'un jeune garçon d'extrême droite qui, sous l'étreinte des circonstances, devient un homme de gauche. La vérité est parfois atroce. C'est une phrase dont je me demande quel est le sens. Et c'est lui qui a écrit ces lignes.
Le sens, c'est que Daniel Cordier, au départ, est un camelot du roi. Il est donc Action française. Il est donc à l'extrême droite.
Avec des parents maurassiens, royalistes.
Voilà. Il vient de ce milieu-là. Et donc, il est, par exemple, très antisémite. Avec la guerre, d'une part, la rencontre avec Jean Moulin, qui est tout à fait déterminante. Jean Moulin, un homme de gauche. Et donc, il ne connaît pas, au fond, ces hommes de gauche. Cette rencontre avec Jean Moulin.
Mais il est parti à Londres avant de connaître Jean Moulin.
Oui, tout à fait.
Et il n'avait même pas entendu l'appel du général de Gaulle.
Non. Donc, avec cette rencontre avec Jean Moulin et puis avec l'évolution de la guerre, eh bien, il va virer vers la gauche. Et donc, il a en quelque sorte honte de ce qu'il était avant la guerre. Et pour lui, c'était effectivement douloureux de se voir tel qu'il était à 19-20 ans.
La connexion avec Jean Moulin s'est faite donc en août 1942 à Lyon. On l'entendait tout à l'heure raconter dans le journal. Il a vu, Daniel Cordier, il a vu de ses yeux vus l'obstination de Jean Moulin à finalement unifier tous les mouvements de résistance, sous l'autorité évidemment du général de Gaulle.
Alors il faut rappeler que quand Daniel Cordier part en 1940, ce qu'il veut c'est combattre, donc faire la guerre. Et puis les troupes françaises ne sont pas engagées. Donc c'est en quelque sorte, faute de mieux, qu'il va rejoindre le BCRA et être mis à la disposition de Jean Moulin pour devenir son secrétaire.
Mais comment se fait le déclic entre eux? Parce que finalement ce sont deux hommes qui ne se connaissent pas.
Alors, écoutez, je n'en sais rien. Je pense que Jean Moulin a été amusé par un jeune homme qui était sans doute assez péremptoire et qui était en même temps assez ignorant. Et que Daniel Cordier a été ébahi par Jean Moulin, qui était quelqu'un qui avait une énorme stature et un certain charisme. Et de ce point de vue, au fond, Jean Moulin a révélé Daniel Cordier à lui-même de deux manières, de trois manières. D'abord, il est devenu résistant, encore qu'on pourra y revenir, puisque lui se définissait comme un Français libre. Deuxième élément, il l'a initié à la peinture alors qu'il n'avait absolument aucun talent. Et puis il a hâté sa métamorphose vers la gauche, puisque Jean Moulin était de gauche et qu'il a discuté beaucoup avec Daniel Cordier, qu'il voyait quasi quotidiennement.
Mais justement, par la suite, est-ce qu'il y a une ambivalence par rapport à la résistance de la part de Daniel Cordier ?
Alors, Daniel Cordier avait un certain respect pour les résistants, mais dans le même temps, lorsqu'on lui demandait... au fond, Daniel Cordier, est-ce que vous êtes un résistant ? Il répondait toujours, je suis un Français libre. Et donc, je crois que c'est une différence assez importante. C'est-à-dire que, au fond, Daniel Cordier s'est défini comme, me semble-t-il, un combattant. Il s'est aussi défini comme un gaulliste, au sens gaulliste de guerre. C'est-à-dire qu'il partage l'idée que Moulin a raison et qu'il faut aider De Gaulle à enraciner, au fond, sa conception de la résistance, qui est une conception très étatique. Et donc, il a une certaine méfiance ou une certaine défiance à l'égard des résistants qui, peut-être, à ses yeux, parlent beaucoup mais n'agissent pas.
Quelle a été cette histoire avec Henri Freinet, dont vous pourriez peut-être nous dire deux mots, et en quoi Daniel Cordier a-t-il été finalement injuste avec lui ?
Alors, je pense que, puisque vous avez fait venir un historien, ce n'est pas un hagiographe que vous souhaitez, donc je pense que l'un des éléments importants à souligner, c'est quand même la vindicte dont Daniel Cordier a poursuivi Henri Freinet. Alors, Vindicte, pourquoi? En fait, Henri Freinet est un résistant. Il fonde en 1940 un mouvement qui va devenir le mouvement Combat. Mmh. Et il est, au départ, mais comme beaucoup de Français, persuadé que le maréchal Pétain ferait le bien. Oui. Mmh. Voilà. Et il est même en accord avec certains aspects de sa politique intérieure. Et donc, Daniel Cordier a révélé que Freinet, au fond, avait pris cette position en 1940. Position, bien entendu, que Freinet ne va pas poursuivre. Bon. Donc, ça a provoqué énormément, si vous voulez, de chocs. À une époque où on pensait que l'on était soit résistant et donc hostile à Vichy, soit pétainiste et donc pas résistant. Bien. Donc, il y a eu une polémique autour de ça.
D'autant plus bizarre que Daniel Cordier lui-même avait aussi eu une trajectoire donc de la droite à la gauche.
Tout à fait. Et cette polémique, elle a duré parce que les amis de Freinet ont malheureusement nié l'évidence. Mmh. Voilà, ce qui n'était pas, je pense, nécessairement très habile. Alors ensuite, l'autre élément qui explique la vindicte de Daniel Cordier, c'est que Freinet, dès 1950 et ensuite en 1977, a accusé Jean Moulin d'avoir été crypto-communiste. C'est-à-dire d'avoir roulé en douce, ouais, pour le Parti communiste. Et ça, Daniel Cordier ne l'a pas pardonné.
Supporté, ouais.
Et donc, au fond, il instruit Daniel Cordier dans son œuvre qui est tout à fait remarquable, quand même toujours un peu à charge contre Freinet. Mmh. Freinet, c'est un peu le mauvais génie qui empêche Jean Moulin de réaliser sa mission, qui empêche Jean Moulin de favoriser l'unification de la résistance, voilà. Et donc, de ce point de vue, je pense que Daniel Cordier était un peu injuste avec Freinet, qui était quand même un très grand résistant.
Olivier Vieborca, vous réhabilitez en quelque sorte Henri Freinet. Donc son engagement, je reviens à Daniel Cordier, son engagement dans la France libre, et puis ensuite 30 années consacrées à l'écriture de cette histoire, et il écrit « Ce sont les deux périodes de mon passé que je recommencerai à l'identique si j'en avais la possibilité ». Donc ça donne une idée de l'homme. Il y a donc le Daniel Cordier historien, il y a le Daniel Cordier également marchand de tableaux, ou plus exactement marchand d'art, et ça a été une joie dans sa vie de lancer un certain nombre de peintres, Dado, Matta, Dubuffet, Réquichot. Vous disiez tout à l'heure que c'est Jean Moulin qui l'avait initié à l'art moderne.
Oui, parce que Daniel Cordier était extrêmement, comment dirais-je, naïf, candide, inculte par rapport à l'art moderne. Et donc, Jean Moulin lui a révélé l'importance. Je crois que l'une des premières expositions qu'il a vues ou dans une galerie, c'était sur Kandinsky. Mmh. Et ça a été une révélation pour Cordier, qui pensait que, au fond, l'art contemporain, c'était un peu du bluff, hein, qui suffisait de faire des carrés. Voilà. Et donc, il y a eu vraiment une éducation artistique de Daniel Cordier par Jean Moulin, dont il a, bien sûr, tiré le meilleur fruit. Soulignons que Jean Moulin était lui-même un amateur d'art, hein, tout à fait éclairé.
Qu'est-ce qui restera de lui?
Alors, ce qui reste de Daniel Cordier, je pense, c'est d'abord une œuvre en histoire très importante. Et si son œuvre en histoire est très importante, je pense notamment à La République des Catacombes. Hein, si son œuvre est importante, c'est que Daniel Cordier a été l'un des premiers à faire une histoire de la résistance sur archive, à une époque où c'était relativement rare, tout simplement parce qu'il avait conservé du temps de la clandestinité, eh bien, des archives qu'il a exploitées.
Il se défiait des témoignages.
Voilà. Donc il se défiait à l'inverse des témoignages. Donc il y a une œuvre sur Jean Moulin qui est absolument considérable. Mm-hmm. Ce qui reste aussi, bah, c'est l'homme, pour ceux qui l'ont connu, c'est-à-dire quelqu'un de très attachant.
D'assez complexe aussi. À la fin de sa vie, il y a quelques années, il a écrit Les Feux de Saint-Elme, dans un livre dans lequel il raconte comment, tout jeune, donc, il a été très attiré dans un internat religieux par des jeunes garçons. Donc il a en quelque sorte donné au public à savoir son homosexualité. Un hommage national va lui être rendu, et sa hantise, finalement, c'était d'être enterré au Mont Valérien. Il ne le sera pas.
Non, on peut dire que si Dieu existe, il a exaucé un vœu de Daniel Cordier, qui préférait être enterré à Cannes. Il a beaucoup aimé la Méditerranée et qui ne voulait pas reposer avec les autres compagnons dans la crypte du Mont Valérien.
Et le dernier compagnon, lui, sera enterré au Mont Valérien. Merci beaucoup, Olivier Vieborca, de nous avoir éclairé sur cet homme.
Et parmi vos livres, je rappelle celui que vous avez dirigé, livre collectif avec Jean Lopez, Les mythes de la Seconde Guerre mondiale. Le livre est paru en deux volumes chez Perrin. Merci et bonne journée.